We the people, we are the system.
Nous autres, citoyens, nous sommes le système. Ces paroles, ce sont celles de Birgitta Jónsdóttir, cofondatrice du Parti pirate islandais et potentiellement future Premier ministre de l'Islande. Nous sommes bien le 29 octobre de l'an de grâce 2016 et en ce jour, les 330 000 Islandais doivent se rendre aux urnes pour élire les membres de leur nouveau Parlement. Figurez-vous que le Parti pirate créé en 2012 caracole ces dernières semaines en tête dans les sondages, parfois un chouïa devant, parfois un cheveu derrière le Parti de l'Indépendance actuellement au pouvoir. Je vous rassure, on ne va pas commenter les sondages ni pronostiquer quoi que ce soit pour ce qui concerne l'issue de ces élections anticipées. En revanche, j'ai envie de m'arrêter un instant sur cette expression qui ressemble à s'y méprendre à un paradoxe, un parti pirate.
Votre honneur, mutinerie à bord.
L'atelier quoi des médias.
Les hommes ont trouvé un rat dans la soupe.
Julien Lebot.
Ils ont à leur tête le naufragé à la jambe de bois.
Oui, s'il existe des partis pirates, pas seulement en Islande d'ailleurs, c'est sans doute que quelque chose est en train de se passer dans nos bonnes vieilles démocraties. Je m'explique. Un parti pirate, par-delà les programmes, c'est en un certain sens un pari. Il s'agit de déprofessionnaliser la politique, il s'agit de bousculer les représentations en permettant de mieux partager les pouvoirs et les décisions, et c'est un parti pris aussi, celui de dire que les technologies qui sont là au quotidien ont déjà changé la façon dont on s'informe et vont bien finir par transformer nos bonnes vieilles institutions. Aussi, voici ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui dans l'atelier, et si l'on tentait de réinventer la démocratie. Et même voilà ce que nous allons faire. Vous allez pouvoir participer à une forme de coup d'état citoyen en compagnie d'Elisa Lewis et de Romain Slitin qui viennent de publier un livre passionnant aux éditions La Découverte. Patience, ce sera dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, on commence avec notre coup de fil de la semaine et cette semaine, on s'intéresse au Burundi en compagnie de Bob Rugurika. Bonjour Bob.
Bonjour Julien.
Alors Bob, vous êtes journaliste, vous êtes burundais et vous travaillez pour la radio publique africaine où vous avez pu diffuser de nombreuses enquêtes. D'ailleurs, ces révélations vous ont contraint à l'exil. Pouvez-vous rapidement nous rappeler ce que c'est que cette radio publique africaine ?
La radio publique africaine est une radio associative, c'est une radio privée indépendante qui a pour mission la promotion de la redevabilité des autorités vis-à-vis des contribuables. Donc, par là, c'est une radio qui est renommée pour son journalisme et d'investigation, mais aussi pour son implication dans le processus de réconciliation nationale durant les années de crise, au plus fort de la crise burundaise, les années 2000, quand la radio est née. Actuellement, au Burundi, c'est la radio qui était la plus populaire, d'après d'ailleurs l'étude d'auditoire des médias qui a été réalisée par l'Institut français IMA.
Récemment, vous avez également reçu le prix du journalisme africain remis par CNN dans la catégorie Liberté de la presse. Et l'un de vos collègues de SOS Média Burundi, il y a quelques jours, a lui reçu un autre prix pour le journalisme courageux et éthique. Il serait peut-être bien de rappeler aux auditeurs quelle est la situation pour les journalistes au Burundi.
Tout le monde actuellement connaît que les médias burundais, surtout les médias privés indépendants, traversent la période la plus sombre de leur histoire. Donc, et d'ailleurs, la crise médiatique actuelle au Burundi, c'est vraiment une crise sans précédent, dans le sens où le gouvernement du Burundi décidait de fermer et de détruire et la quasi-totalité des médias indépendants qui étaient au Burundi avec le début de l'année 2015, année de la crise burundaise, où le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer en troisième mandat illégal, un troisième mandat qui a été contesté par un mouvement citoyen, par des manifestations pacifiques dans tout le pays, malheureusement, pouvoir fallait pris à nos médias, parce qu'effectivement, le pouvoir craignait qu'avec la couverture de ces manifestations, c'est tout le pays qui allait descendre dans la rue. Et c'est sans oublier que durant cette année de crise, le pouvoir quand même a tué deux journalistes, un journaliste avec toute sa famille et un autre journaliste actuellement qui reste porté disparu depuis le mois de juillet de cette année 2016.
Bob, si on observe la façon dont le contexte justement évolue, il y a le président du Conseil national de la communication qui est donc l'organe chargé de la régulation des médias qui a annoncé qu'une réforme de la loi régissant la presse était encore à l'étude. Donc pour vous, il y a bien matière à s'inquiéter pour la liberté de l'information au Burundi.
Il n'y a pas seulement à s'inquiéter, mais c'est une grave préoccupation actuellement, non seulement pour les Burundais, mais pour le monde entier, surtout pour les militants de la liberté de la presse, pour les militants de la liberté d'opinion. Parce que visiblement, aujourd'hui, le pouvoir est dans une logique de faire du Burundi une vaste prison, de faire du Burundi un pays où il n'y a pas la liberté d'expression, parce que non seulement ils sont en train d'imposer des restrictions au niveau de toutes les lois, actuellement, le pouvoir aussi est en train aussi de fermer tout espace médiatique. Parce que vous l'avez entendu, il y a des émissions, même pour les médias, qui étaient encore de fonctionner. Il y a des émissions actuellement qui sont suspendues, il n'y a pas même 28 et 24 heures. Il y a une radio qui vient d'être fermée provisoirement pour un mois. Et il y a aussi des mesures d'interdiction des vrais pour certains journalistes où le pouvoir, via son Conseil national de la communication, un conseil qui était supposé être indépendant, mais malheureusement qui constitue une caisse de résonance de l'exécutif burundais. Mais c'est juste un petit cercle de militaires actuellement qui détiennent tout le pouvoir au Bujumbura, qui dictent toutes ces restrictions.
Bob Rugurika, je rappelle que vous êtes burundais, que vous êtes journaliste et que vous dirigez la radio publique africaine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Julien.
À bientôt.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias? On commence avec les bienfaits collatéraux de la COP22 au Maroc. La COP22, c'est la 22e conférence sur le climat et c'est le Maroc qui s'apprête à accueillir un maximum de délégations internationales du 7 au 18 novembre 2016. Pour l'occasion, les autorités ont décidé, selon des sites d'information marocains, de lever provisoirement l'interdiction qui pèse sur l'accès aux services de VOIP. Autrement dit, les Marocains devraient pouvoir se ruer sur les services comme WhatsApp, comme Viber ou comme Skype, qui permettent d'appeler gratuitement à l'autre bout de la planète sans avoir à payer des forfaits exorbitants. Une petite révolution pour les internautes marocains, puisque depuis janvier dernier, sous la pression des opérateurs téléphoniques, l'autorité de régulation des télécommunications avait tout simplement bloqué l'accès à ces services de téléphonie par Internet. On croise donc les doigts pour que ces services restent accessibles, même après la COP. Désolé pour la déception, mais le Facebook Live diffusé depuis la Station Spatiale Internationale, qui a tant émerveillé les uns et les autres, n'en était pas un. Cette belle vidéo où l'on peut voir un astronaute s'affairer en apesanteur avec la Terre en second plan date en réalité de 2015. Et pourtant, on l'a tous vu passer sur nos fils d'actualité de nos comptes Facebook en ce mercredi 26 octobre. Et pour cause, c'est notamment la bien nommée page virale USA qui s'est contentée de mettre en Facebook Live une vidéo tournée en 2015 par la NASA, mais certainement pas retransmise en direct. Résultat, près de 30 millions de vues sur cette vidéo en 48 heures et je ne vous parle pas de la déferlante de partages et de commentaires éblouis au sujet du premier direct extraterrestre transitant sur nos réseaux sociaux. Il est à craindre que ces Facebook Live inopinés nous réservent encore bien des surprises, mais aussi des déceptions. Je rappelle qu'à l'atelier, on tweet et on partage tout ce qu'on vous raconte, donc tous les liens, toutes les références de nos brèves sont à retrouver sur le compte Twitter de l'atelier, @atelier_media.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Connaissez-vous les conférences TED? Si l'on en croit le slogan, TED, c'est un format vidéo permettant de partager à l'échelle du monde entier des idées qui valent la peine d'être diffusées. Et c'est en flânant sur le site des conférences TED que j'ai découvert il y a quelques mois Pia Mancini, dont les idées méritent d'être partagées ici à l'antenne. Pia Mancini est cofondatrice du parti argentin Partido de la Red et elle a participé à la création de Democracy OS, un logiciel libre censé renforcer l'accès des citoyens à la décision politique. Et Pia Mancini, c'est un regard lumineux sur l'évolution de notre démocratie. D'ailleurs, elle a eu cette phrase que l'on peut retrouver dans Le coup d'État citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie, un livre passionnant qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Je cite Pia Mancini : nous sommes des citoyens du 21e siècle, faisant de notre mieux pour interagir avec des institutions conçues au 19e siècle et fondées sur les techniques d'information du 15e siècle. Voilà, tout est dit, tout est résumé. La réinvention de la démocratie, c'est l'enjeu de ce coup d'État citoyen. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Elisa Lewis et Romain Slitine. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans l'atelier des médias.
Bonjour.
Alors pourquoi avoir titré ce livre Le coup d'État? Est-ce que vous nous annoncez là l'imminence d'un putsch, Elisa Lewis?
Alors, ce qu'on annonce en tout cas, c'est la nécessité d'une rupture dans la façon dont on a conçu la démocratie depuis plus de 200 ans, comme le résume en effet très bien Pia Mancini, c'est-à-dire finalement, le fait qu'on ait résumé la démocratie à l'élection de représentants une fois tous les 5 ans et nous autres citoyens, notre incapacité à participer au débat, à participer à la vie politique dans l'intervalle. Et donc, ce qu'on annonce, ce qu'on appelle de nos voeux à travers ce coup d'État citoyen, c'est une rupture dans cette façon de concevoir la démocratie. Et c'est aussi une reprise en main, évidemment, de la politique par les citoyens.
Alors, vous annoncez cette rupture, mais comment est né ce projet? Je dis ça parce que vous êtes, vous, entrepreneur, Elisa Lewis, et vous, Romain Slitine, vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Quel a été le point de convergence entre vous deux et pourquoi, à un moment donné, se lancer dans un tel projet, Romain Slitine?
Eh bien, c'est vraiment un départ à une prise de conscience citoyenne. C'était à la fin des élections de 2014 européennes où on était quand même assez déprimé par le fait de voir 50% d'abstention et le Front National, premier parti de France dans une élection nationale. Et on s'est dit, nous qui nous intéressons à la politique, nous qui croyons encore à la capacité de transformation de la politique, que faire quand on voit le débat politique en France et ailleurs dans le monde, qui était quand même extrêmement limité et assez pauvre.
Alors justement, partons du constat de départ que vous posez dans votre livre, et vous dites, grosso modo, ce n'est pas parce qu'on a des isoloirs, des urnes et des bulletins de vote que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et pour résumer à grands traits, vous dites effectivement, les partis politiques ont pris le pouvoir sur la démocratie. Or, la démocratie, ce n'est pas nécessairement le régime des partis. Et vous dites, ils ne nous représentent pas, c'est en un certain sens le mantra, le slogan de tout un tas de mouvements qu'on peut retrouver à Londres, à Tel Aviv, à Tokyo, à Montréal. On pourrait même citer Hong Kong ou Taïwan. Et vous nous dites que nous traversons la fin d'une forme d'évidence, et vous parlez de la fin de l'évidence démocratique, Romain Slitine.
La fin de l'évidence démocratique, c'est la fin du mythe selon lequel le citoyen ne serait qu'un électeur. On a réduit notre démocratie au fait de voter régulièrement tous les 5 ou 6 ans, alors que aujourd'hui, ça ne suffit plus pour faire vivre notre démocratie. En plus, quand on regarde l'histoire de la démocratie a été quand même fondée par les pères fondateurs comme une méfiance vis-à-vis du peuple, et on a voulu remplacer l'aristocratie traditionnelle par une aristocratie élective avec des professionnels de la politique qui sont censés nous représenter, mais on le voit bien, ne nous représentent plus et nous représentent de plus en plus mal. Quelques éléments, quand on voit à l'Assemblée nationale qu'il n'y a que 2,5% de députés qui sont des anciens ouvriers ou employés, alors que aujourd'hui c'est 50% de la population en France, on voit bien qu'il n'y a pas cette représentativité. Et ensuite, quand on voit qu'on élit les gens sur un programme et que derrière ils font autre chose ou ils en font qu'à leur tête, eh bien là encore, on se sent mal représenté. Et c'est ça qui a créé tous ces mouvements, en particulier vous parliez des mouvements comme les Indignés en Espagne, comme Occupy et ailleurs. Et donc c'est vraiment ça qui est remis en cause aujourd'hui.
Alors avant de partir sur le panorama que vous dressez, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est la remise en perspective en fait historique du concept de démocratie. Vous le disiez, par exemple, vous mentionnez Antoine Barnave au XVIIIe siècle, qui finalement ne pensait pas que la démocratie était forcément le meilleur des régimes si le peuple prenait le pouvoir. Et vous connaissez aussi sans doute ce genre d'aphorisme inoxydable pour briller en société. La démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Donc on l'a tous reconnu, c'est Winston Churchill, repris d'ailleurs par Manuel Valls. Jusque-là, est-ce que vous le suivez? Est-ce que effectivement la démocratie, c'est le système à l'intérieur duquel il faut qu'on trouve une forme adaptée pour que les citoyens prennent le pouvoir, Elisa?
En fait, nous, on est parti du constat, finalement, que tout le monde fait, que la démocratie, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est en crise, voire la démocratie ne va pas bien du tout. Ce qui a constitué jusqu'à présent les fondamentaux, les fondements, les bases sur lesquelles s'est construit notre système politique, sont en train de s'effondrer. Que ce soit l'élection, qui est évidemment au cœur de la machine politique, et qui pourtant est de plus en plus boudée par les électeurs. Aux dernières élections, un électeur sur deux ne s'est pas présenté aux urnes. Que ce soit le fonctionnement des partis politiques, qui sont arrivés un petit peu plus tard, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui, depuis, ont tout monopole sur la vie politique, que ce soit dans la désignation des candidats ou dans la construction des programmes. Donc, et puis, évidemment, dernier élément, la confiance entre les représentants et les représentés, qui était le ciment de notre système politique. Tout ça est en train de s'effondrer et en train d'être fissuré. Et le problème, c'est que les solutions on va les chercher dans ce cadre même de la démocratie représentative élective. On nous parle de septennat non renouvelable, de non-cumul des mandats, comme s'il suffisait de rendre les représentants un petit peu meilleurs, ou alors de remettre les électeurs sur le droit chemin, c'est-à-dire sur la route de l'isoloir.
C'est ça qui est assez fascinant dans votre livre. On voit bien, je reprenais Churchill, qui justement disait que le peuple, pour régner, doit le faire à travers le Parlement. Et vous dites, non, pas du tout. Désormais, il faut changer de perspective. Alors, Marie-Stéphanie Servos, avec qui j'ai préparé l'émission, est allée faire quelques interviews pour m'aider à y voir clair. Et elle m'a appris plein de concepts, dont celui-ci, par exemple, celui de démocratie continue. Et on a l'impression que quand vous appelez de vos voeux cette espèce de coup d'État citoyen, ça veut dire que désormais, il faut arrêter d'avoir des grandes étapes. Il faut trouver un moyen d'avoir une sorte de mécanique qui, de manière continuelle, nous permet d'avoir pris sur le pouvoir. Romain Slitine.
C'est exactement ça, le changement de perspective qu'on propose et qui est incarné par un certain nombre d'initiatives dans le monde. Le citoyen, aujourd'hui, peut être citoyen tout au long de sa vie et pas simplement pendant les élections. Il peut, et on le verra, proposer des lois, proposer des initiatives de texte. Il peut également co-construire les textes avec les élus et il peut également même lui-même prendre la plume pour travailler sur les textes. Il peut également avoir un beaucoup plus grand nombre de moyens de pression, de contestation, se constituer en contre-lobby citoyen. Et donc on peut vraiment avoir une panoplie incroyable pour être aujourd'hui citoyen.
Alors justement, pour dépasser les élections, pour mettre à jour la démocratie comme vous l'écrivez, on sent que vous souhaitez explorer ou réinstaurer parfois de nouvelles pratiques institutionnelles. Je pense par exemple au tirage au sort. Pourquoi le tirage au sort et qu'est-ce qu'il a de vertueux, Romain Slitine ?
Le tirage au sort est vraiment remis au goût du jour aujourd'hui. C'est évidemment une pratique de la Grèce antique que l'on redécouvre. Le tirage au sort est intéressant pour essayer de représenter la diversité de la population, parce que on le combine à un système de quotas, ce qui permet véritablement d'avoir l'ensemble des couches de la population et donc d'avoir une véritable diversité, une véritable représentation de l'ensemble des citoyens. Le deuxième point, c'est que le tirage au sort est efficace dans un certain nombre de choses. On le dit avec une expression canadienne que on ne va pas demander à une dinde d'avancer la date du repas de Noël. C'est la même chose avec les élus. On ne peut pas leur demander eux-mêmes de se réformer. On le voit bien avec toutes les réformes qu'il y a eu récemment, c'est très compliqué. Et donc, le tirage au sort permet de faire un pas de côté, de décaler la prise de décision, les propositions, et donc que les citoyens s'emparent de grands sujets pour les réformes institutionnelles et, par exemple, pour les grandes lois de transition économique ou écologique.
Mais vous pensez sérieusement, Elisa Lewis, par exemple, que ma grand-mère ou n'importe quel citoyen est partant pour procéder par ce tirage au sort pour réussir à construire la démocratie de demain, Elisa Lewis ?
Alors, c'est vrai qu'on oppose finalement souvent deux arguments à cette idée de tirage au sort. D'une part, le fait que, grosso modo, les gens ne s'intéresseraient plus beaucoup à l'intérêt général et que si on les tire au sort, ils ne viendront pas. Il y a eu des expériences de tirage au sort. Les premières ont émergé au Canada sur des questions d'ailleurs très complexes de réforme du système électoral. Et ce qu'on a vu à l'issue de ces assemblées ad hoc tirées au sort pour se saisir de ces questions extrêmement complexes, c'est qu'à la fin, lorsqu'on demandait aux gens si ils étaient prêts à se réinvestir sur ce type de questions, 98% des personnes qui avaient participé à ces assemblées étaient évidemment favorables et se disaient prêts à se réinvestir dans ce type d'assemblée. Souvent, la deuxième chose qu'on se dit, c'est « mais on va se retrouver avec des incompétents ». Et il faut rappeler que dans l'Athènes antique, 90% des postes étaient tirés au sort. Mais ça ne concernait pas, évidemment, les postes extrêmement techniques, le gouvernement des armées, les questions budgétaires, où là, on allait chercher la compétence. Mais ce qui est intéressant dans le tirage au sort, c'est pas les compétences techniques que chacun va pouvoir avoir, c'est la capacité à réunir une assemblée qui représente la diversité de la société, le croisement d'expériences, de faire entrer aussi en politique les expertises d'usage, puisqu'on a, ce rapport à l'expertise en France qui est uniquement basé sur finalement les diplômes académiques. Mais il y a aussi une connaissance dans la société qui s'inscrit dans l'usage et l'expérience concrète des situations et des questions politiques.
On marque une petite pause et on se retrouve après le flash, toujours en compagnie de Romain Slitine et d'Elisa Lewis, pour tenter de réinventer la démocratie. A tout de suite.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, deuxième partie. Nous sommes toujours avec Elisa Lewis et Romain Slitin et l'on parle du coup d'État citoyen, un livre qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Alors, on vient de faire le point sur les limites d'une démocratie, entendue comme un système régi par des partis politiques, et vous décrivez justement de nombreuses initiatives citoyennes essayant de dépasser cette logique des partis. Alors, on parle à la fois de l'intelligence collective en train de se déployer et on essaie de comprendre comment des anonymes peuvent accéder ou en tout cas tenter d'accéder à des responsabilités. Et là, vous citez Podemos en Espagne, qui est né du mouvement des indignés, comme un exemple. Romain Slitin, qu'est-ce qui vous a intéressé précisément dans le fonctionnement de ce parti dit citoyen ?
Podemos, c'est vrai que ce qui nous a intéressé, c'est moins le parti tel qu'on le présente dans les médias en général, comme un nouveau parti anti-austérité, comme il en existe dans différents pays. Ce qui nous a intéressé, c'est vraiment la mécanique de comment ils ont fait pour émerger déjà en termes de pouvoir et ensuite leur pratique du pouvoir. Il faut rappeler quand même que Podemos est aujourd'hui le deuxième ou troisième parti en Espagne dans un contexte où, comme en France, il y avait un bipartisme entre la droite et la gauche et une alternance régulière. Et en fait, ils ont, du coup, c'est ça déjà le phénomène Podemos, c'est qu'en quelques mois, ils ont émergé comme un parti qui a bousculé la vie politique. Ils ont fait comment, justement ? Ils ont essayé de décaler un petit peu la manière de faire et d'impliquer les citoyens dans... Tout d'abord, la construction de leur programme, puisque la plupart des programmes au niveau local et au niveau national ont été co-construits sur des plateformes collaboratives avec les citoyens. Ils se sont dit, ils ont eu une véritable expertise là-dedans, en se disant, on va pas utiliser évidemment les plateformes traditionnelles comme Facebook ou Twitter qui ne permettent pas de faire de la démocratie. On va construire ou on va utiliser des véritables outils adaptés à cela. Donc ça, c'est la première chose de construction avec les citoyens. La deuxième chose, c'est également de travailler, de tenter d'être exemplaire sur un certain nombre de points en termes de transparence, de financement et puis également en termes de s'adresser de manière différente en termes politiques pour pouvoir à la fois renouveler le discours politique et pouvoir du coup véritablement émerger en tant que parti crédible et alternatif dans le débat politique en Espagne.
Elisa Lewis, Romain Slitin, je rappelle que vous êtes ici pour nous parler du coup d'État citoyen. On parlait à l'instant de Podemos, mais en France aussi, on a des initiatives qui ont vocation à essayer d'associer les anonymes à la fabrication de la loi ou en tout cas à l'appropriation des débats en cours. Je pense par exemple à laprimaire.org ou encore Ma Voix. Voilà deux exemples de plateformes qui veulent projeter des anonymes dans l'espace public. Quel est finalement l'enjeu, Elisa Lewis ?
L'enjeu, c'est de déverrouiller le monopole des partis politiques dans la construction des programmes, la désignation des candidats et finalement la construction même de l'espace politique. Ce que rappellent très bien les fondateurs et le collectif qui est derrière la primaire.org, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend les partis de l'extrême droite à l'extrême gauche, il y a 400 000 militants en France.
Soit... Sachant que, je le précise, la primaire.org, c'est la possibilité d'élire n'importe quel citoyen, justement, dans une forme de primaire pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Elisa Lewis.
Tout à fait. L'idée de la primaire, partant de ce constat que 0,5% seulement des Français sont membres d'un parti politique, l'idée de la primaire, c'est de se dire qu'il faut créer une faille dans ce système qui est extrêmement verrouillé, centralisé. Et donc le projet de la primaire, c'est faire émerger un candidat issu de la société civile, sans aucune organisation partisane derrière lui. Ça se passe en plusieurs étapes, donc cette opération est ouverte à toutes les sensibilités, à condition de ne pas être associée à un parti politique. Pour se présenter, une seule règle, réunir 500 soutiens citoyens, donc il fallait d'abord réussir à réunir ce collectif autour de sa candidature. À l'issue de cette première étape, 16 candidats citoyens ont émergé. Et puis là, ce qui est en train de se passer avec la primaire.org, c'est la construction des programmes, en utilisant là aussi une plateforme numérique qui permet d'activer concrètement l'intelligence collective pour co-construire des programmes. Et puis derrière, la sélection d'un candidat, avec un travail très important qui est fait par l'équipe de la primaire.org pour éviter la candidature de témoignage et permettre au candidat citoyen qui émergera d'avoir avec lui un kit présidentiable, c'est-à-dire un kit qui réunira les signatures les grands parrains pour permettre officiellement de présenter sa candidature, mais aussi la capacité derrière à mobiliser une équipe de campagne à travers ces nouveaux outils numériques et la mobilisation active des citoyens dans la campagne.
Est-ce que ça veut dire que vous, Elisa Lewis, vous êtes prête à voter pour le candidat de la primaire.org ?
Alors, pour le moment, le candidat de la primaire.org n'est pas connu, donc on attend de savoir qui il sera, mais évidemment, aujourd'hui, je suis de très près cette affaire et les candidatures.
Alors, au cœur de votre livre, on parle de proxy, on parle de laprimaire.org, on parle de plateformes, d'outils. Donc, en gros, il y a le numérique et les nouvelles technologies. Il y a une expression qui revient régulièrement, c'est « civic tech ». J'essaie une sorte de traduction un peu libre, une technologie citoyenne. Ça veut dire quoi, une technologie citoyenne, Romain Slitine?
Oui, les civic tech, tout le monde en parle. On pourrait le définir en disant c'est le numérique au service de l'intérêt collectif. C'est comment on utilise... Internet n'a pas de vocation politique en tant que tel. C'est un outil. Il faut éviter justement de croire qu'il va résoudre tous les problèmes. Et par contre, on peut utiliser le numérique non seulement en tant qu'outil pour favoriser la démocratie, mais aussi en tant que logique, avec une dimension beaucoup plus horizontale, beaucoup plus collaborative, qui permet justement à beaucoup de ces nouvelles initiatives d'émerger. Je voudrais aussi dire quand même que le numérique n'est pas que au cœur. C'est évidemment un élément essentiel, mais cette transition démocratique se fait aussi en physique, et c'est très important de pouvoir combiner le numérique et les activités humaines, parce que la politique, c'est aussi ça.
Moi, j'ai l'impression que la réinvention de la démocratie, et c'est aussi l'enjeu de votre livre, c'est une réinvention de son vocabulaire, Romain Slitine.
Oui, il faut réinventer le vocabulaire, il faut réinventer l'imaginaire de la politique, il faut adapter aussi le vocabulaire aux nouvelles générations qui se sentent extrêmement éloignées du vocabulaire traditionnel politique tel qu'on peut le connaître. On parlait de Podemos et c'est ça aussi qu'ils ont réussi à faire. Et donc, effectivement, il faut réinventer le vocabulaire, réinventer l'imaginaire politique aujourd'hui.
D'ailleurs, votre livre est une sorte de plaidoyer pro-démo. Vous êtes vous-même membre actif au sein de Démocratie Ouverte. Quel est l'enjeu pour vous dans le fait de produire et de publier un livre qui démocratise toutes ces connaissances et tout ce vocabulaire, Elisa Lewis?
L'enjeu derrière, c'est vraiment d'engager chacun, d'autant plus cette année, puisqu'on entame une année de campagne présidentielle où on va sans doute nous annoncer l'émergence d'un nouvel homme providentiel. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que peut-être que pour la première fois depuis très longtemps, on a les moyens de construire une démocratie qui nous ressemble. On a les moyens de ne pas être les spectateurs impuissants, passifs, désabusés d'une vie politique qui se déroulerait sur nos téléviseurs et sur laquelle nous n'aurions aucune prise.
Donc on voit mieux démocratie ouverte, donc plus accessible, technologie citoyenne, c'est-à-dire au service d'une forme d'intelligence collective. Et justement, Marie-Stéphanie Servos a repéré quelques-unes des initiatives qui nous permettent de penser cette nouvelle pratique peut-être de la démocratie. Alors il peut y avoir des journaux de débat qui présentent deux tribunes sur un sujet, on peut avoir une plateforme qui permet d'interpeller directement des élus en posant une question comme Curious.so, ou même Parlement et citoyens dont on reparlera plus tard, et qui permet d'associer les citoyens aux parlementaires dans l'élaboration des lois. Mais sur YouTube, on a bien aimé un petit exemple, ça s'appelle Acropolis, c'est une chaîne citoyenne et je vous propose d'écouter Jean Massier, toujours au micro de Marie-Stéphanie Servos.
Acropolis, c'est la chaîne citoyenne. De la même manière qu'il y a des chaînes parlementaires qu'on connaît tous, Acropolis, c'est une innovation, une proposition d'utiliser tous les outils du numérique et la puissance des réseaux sociaux pour rendre la politique moins chiante à suivre et plus intéressante et moins compliquée. Notamment pour toute une génération qui ne regarde pas la chaîne parlementaire, Acropolis s'adresse à une génération de moins de 35 ans, une génération qui a besoin de nouvelles modalités médiatiques pour s'intéresser à la politique et notamment de modalités participatives. Puisque la grande innovation d'Acropolis, c'est que j'utilise des formats qui ont vu un grand succès dans le jeu vidéo, dans le monde du jeu vidéo, puisque je fais du streaming, c'est-à-dire qu'on peut commenter en direct, en même temps que moi, les questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée nationale par exemple. Donc je propose aux gens de ne pas être des consommateurs de contenu politique, mais d'être des acteurs d'émissions de télévision d'un nouveau genre.
Et est-ce que ça fonctionne du coup ?
Ça fonctionne très très bien, j'ai du mal à me faire connaître puisque YouTube est un marché très très difficile. Il y a beaucoup beaucoup plus de vidéos d'humour, de jeux vidéo, de petits chats que de contenu politique, citoyen et à valeur ajoutée citoyenne et d'intérêt général. Mais ça marche assez bien, j'ai d'excellents retours des personnes qui me suivent et qui me découvrent, qui découvrent les formats que je fais et qui pour la plupart me disent par message que je propose quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps, qu'ils n'ont jamais vu ailleurs et qui répond à une attente citoyenne qu'ils ont depuis longtemps de mieux comprendre la politique.
Là, on a presque l'impression que le coup d'État citoyen, en tout cas, il est simple. On n'a plus besoin des médias, on n'a plus besoin de RFI. Il faut une chaîne YouTube, on peut expliquer les enjeux du 49-3, on peut suivre les questions d'actualité au gouvernement, on peut même proposer de supprimer le Sénat. Mais le coup d'État citoyen, en fait, tout vient de la base, Romain Slitine.
Tout vient de la base. C'est aussi l'idée, on le voit là, de faire de la politique en circuit court. Le citoyen peut véritablement agir, interagir au quotidien. On vient de parler, c'est un élément essentiel, de s'informer. s'informer, de s'informer différemment, de pouvoir décrypter la vie politique. Et ça, c'est quand même la première étape. Et il n'y a pas que les manières traditionnelles de l'instruction civique pour le faire, même si c'est nécessaire. Toutes ces initiatives permettent déjà de comprendre pour pouvoir ensuite agir.
En tout cas, ce qui est assez fascinant, c'est ce travail de vulgarisation à l'œuvre via l'ensemble de ces plateformes d'intelligence collective. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes ici pour parler du coup d'État citoyen. Je suis avec Elisa Lewis et Romain Slitine. Et je voudrais qu'on prenne un petit peu de champ puisque votre livre propose un tour du monde. Il y a notamment le cas islandais qui est très intéressant et qui donne un exemple concret finalement de rédaction de textes de loi, et je parle en l'occurrence même de la Constitution, par des citoyens et des internautes. Alors je vous propose de rembobiner un petit peu. En 2008, au lendemain d'une crise bancaire sans précédent, le réveil est difficile pour les Islandais qui découvrent finalement l'ampleur du désastre. Et là, il y a comme une forme de sursaut démocratique. Les citoyens veulent écarter la classe politique traditionnelle des affaires publiques et les débats se focalisent sur la rédaction justement d'une nouvelle constitution puisque la constitution en vigueur est celle qui date de 1944. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, mais surtout quelle a été la méthode pour réussir à réfléchir sur cette nouvelle constitution en Islande ?
Exactement, ce que vous avez dit, c'est que comme la classe politique était complètement discréditée, les citoyens ont décidé de se mettre à la rédaction et de prendre la plume directement de cette nouvelle constitution. Comment ça s'est passé ? Eh bien, la première chose, c'est de revenir sur les fondamentaux du pays et de revenir sur les valeurs fondatrices et l'avenir. Et du coup, il y a eu deux assemblées citoyennes tirées au sort en 2009 qui ont travaillé, plus de 1000 citoyens, avec l'ensemble des Islandais qui pouvaient également y participer, qui ont travaillé sur les grands principes, les grands fondamentaux de cette future constitution. Et ces deux assemblées citoyennes ont également décidé du processus qui allait voir le jour ensuite pour aller jusqu'au bout de cette rédaction constitutionnelle. Ensuite, eh bien, ce qui a été décidé, c'est qu'il y ait des citoyens ordinaires qui puissent être élus. Donc la seule condition était de réunir 500 soutiens d'Islandais et de ne pas avoir eu d'engagement politique traditionnel auparavant. Donc c'était vraiment des citoyens ordinaires, hors classe politique, qui ont été élus. Il y a eu 500 candidatures et 23 citoyens qui ont été désignés et qui ont travaillé pendant 4 mois à l'aide d'experts juridiques, constitutionnalistes, à l'aide d'éclairages divers, à l'aide également, grâce à une plateforme ouverte, tous les citoyens pouvaient également proposer des amendements. Il y a eu plus de 4000 contributions d'Islandais pour rédiger, co-rédiger cette constitution. Et donc, au bout de 4 mois de travail, finalement, en 4 mois, les citoyens ont réussi à faire ce que pendant 45 ans, la classe politique a été incapable de faire, c'est-à-dire de réformer cette constitution. Ce qui est intéressant, c'est que cette constitution, en 2012, a été adoptée à 67%. Par les citoyens, par référendum. La difficulté que l'on a, c'est que ensuite la Constitution est revenue sur le bureau du Parlement et elle est jusqu'à présent bloquée, alors que c'est une des constitutions les plus progressistes que l'on connaisse dans le monde aujourd'hui.
Oui, alors c'est ça, si on refait une sorte de séquence, on a des non-professionnels, des écoliers qui travaillent sur une feuille de route, puis on a la rédaction sur la base de cette feuille de route d'une sorte de rédaction entre avril et juillet 2011, plus de 12% des 317 000 Islandais qui ont envoyé des mails, des tweets, des messages via Facebook pour réfléchir au projet, et au final on accouche de 114 articles, de 9 chapitres et de nouveaux mécanismes qui permettent de faciliter par exemple les référendums d'initiative populaire, une protection accrue pour la liberté d'informer ou encore une indépendance garantie pour l'ensemble des agences gouvernementales. Est-ce que ça veut dire que ce projet de constitution islandaise, qui malheureusement n'a pas été adopté, reste un modèle du genre, Romain Slitine ?
Alors c'est un modèle du genre et la messe n'est pas encore dite. On a les élections islandaises qui se déroulent actuellement et peut-être que le parti pirate va émerger et l'engagement du parti pirate est d'adopter cette constitution. Et donc, vraiment, on a une possibilité que cette constitution voie le jour très rapidement.
Alors, on parle de parti pirate, mais ça veut dire quoi ça, Elisa Lewis ?
Alors, le parti pirate, déjà, c'est une spécificité dans notre paysage politique, c'est que c'est un parti transnational qui existe en Islande, en Allemagne, qui a émergé en Suède, donc qui porte un projet qui dépasse les frontières nationales et qui fait un vœu, celui que les principes d'Internet viennent bousculer notre vie sociale, la société, mais aussi les principes démocratiques. Donc, en l'occurrence, le Parti Pirate porte un plaidoyer très fort pour la réforme du copyright, pour penser la propriété à l'ère du numérique et à l'ère des sociétés collaboratives.
Et en l'occurrence, la propriété intellectuelle.
Tout à fait. Et qui porte, ce parti pirate porte aussi un certain nombre de propositions pour réformer notre système démocratique en s'inspirant encore une fois des principes du numérique. Le parti pirate est aussi très actif sur les questions de transparence.
On parle de parti pirate, on parle de constitution des internautes qui malheureusement a été retoquée par des parlementaires. Et à l'heure où on parle, les Islandais doivent se rendre aux urnes pour les législatives. Et nous verrons ce que ces urnes nous réservent. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'exception démocratique en Islande, Elisa Lewis?
Il y a sans doute un esprit un peu transgressif en Islande où il y a un terreau assez favorable à l'innovation. On a parlé du parti pirate, on a parlé de ce processus absolument inédit dans l'histoire des démocraties modernes de rédaction d'une constitution par les citoyens. Après, il faudrait pas que ça devienne un contre-exemple pour nous dire finalement la démocratie, l'innovation démocratique ne peut se faire qu'en Islande, que dans des petits pays. Beaucoup de choses qui se sont passées en Islande, notamment ce processus de rédaction constitutionnelle, pourraient se dérouler dans un pays comme la France. Le tirage au sort, c'est un processus qui peut se réaliser peu importe la taille de l'échantillon. On l'a fait sur un échantillon de 350 000 habitants, on pourrait le faire sur un échantillon de 60 millions d'habitants comme c'est le cas en France. La question des mobilisations numériques peuvent se déployer à très grande échelle également.
Oui, la démocratie, c'est une question de pratique au fond. Je vous propose qu'on avance un petit peu et que l'on aborde en fait un aspect extrêmement intéressant de votre livre et une expression, celle de fabrication des contre-lobbies citoyens. Ça veut dire quoi un contre-lobby citoyen, Elisa Lewis?
L'idée, c'est de se dire que finalement, cette question des contre-pouvoirs, ça a été un peu la grande question oubliée de la démocratie ces dernières années. On a, notamment en France, une vision très institutionnelle du fonctionnement démocratique. Alors évidemment, avoir des institutions démocratiques, le suffrage universel, des parlements qui sont en capacité de faire correctement la loi sans être trop soumis à la pression des intérêts particuliers, c'est une avancée, c'est une nécessité démocratique. Mais la possibilité d'exprimer, de révéler, d'encourager, d'organiser les contre-pouvoirs citoyens dans la société, c'est aussi une exigence démocratique. Et nous avons tous, en tant que citoyens, un rôle à jouer en tant que vigie pour veiller à ce que les élus restent fidèles à leurs promesses, à ce que la transparence nous permette d'exercer une contre-expertise, d'exercer un regard vigilant et exigeant sur la conduite des affaires du pays.
Alors je rappelle aux auditeurs que nous parlons du coup d'État citoyen et je vous propose de retourner en France avec une autre question qui est celle de la rédaction des textes de loi. Et je vous propose de parler de Parlement et citoyen que vous connaissez bien tous les deux. Parlement et citoyen d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ?
Alors Parlement et citoyen, c'est une communauté de parlementaires qui sont à peu près une trentaine et de citoyens qui sont 30 000, 40 000 et qui essayent de travailler ensemble à régler et trouver des solutions ensemble le problème du pays. Traduction opérationnelle, c'est une plateforme de consultation en ligne qui permet à des parlementaires, lorsqu'ils ont l'initiative d'une proposition de loi, la mettre en consultation auprès de cette communauté de citoyens pour essayer de les faire participer à ce qu'eux vont essayer de définir comme une proposition de loi. L'autre cas de figure, c'est un parlementaire qui va mettre en consultation non pas l'initiative ou le projet d'une proposition de loi, mais directement un texte qui va être examiné dans les jours qui suivent auprès d'une commission.
On écoutait Thibaut d'Hernoncourt au micro de Marie-Stéphanie Servos. Est-ce que ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, on a donc la possibilité de coécrire des lois, Romain Slitin?
Tout à fait. C'est aujourd'hui possible grâce à des plateformes comme Parlement et Citoyens. Ça fonctionne comment ? C'est aujourd'hui, il y a deux possibilités pour mettre à l'ordre du jour des lois. Soit c'est le gouvernement qui le fait, et du coup c'est un projet de loi, soit c'est un parlementaire, et du coup c'est une proposition de loi. Aujourd'hui, le citoyen, grâce à des plateformes comme cela, peut véritablement co-construire la loi avec les parlementaires ou le gouvernement. Sur cette plateforme, du coup, le parlementaire explique, du coup, il y a une dimension de pédagogie, explique les grands enjeux de sa loi avec une vidéo et avec l'ensemble des textes. Pendant plusieurs semaines, il y a un débat sur cette plateforme. Les citoyens peuvent apporter des contributions, contester la loi, montrer qu'il y a des insuffisances dans la loi. Et ensuite, l'ensemble des citoyens peuvent voter pour les contributions qui leur semblent les plus intéressantes, les plus pertinentes. Et du coup, ça permet véritablement, à la fin, de faire évoluer le texte. On le voit, on l'a vu pour un texte sur la République numérique portée par la ministre Axelle Lemaire, où il y a eu une dizaine d'articles qui ont été totalement réécrits, 5 articles qui ont été des copier-coller des contributions citoyennes. Et donc, il y a une véritable implication et une véritable prise en compte de la contribution des citoyens dans la co-construction des lois.
Parlement et citoyens, c'est combien de lois qui ont été adoptées de cette manière, Romain Slitine ?
Aujourd'hui, c'est bien sûr encore minoritaire. Il y en a un peu moins d'une dizaine qui ont été co-construites. Mais c'est un mouvement qui se développe extrêmement vite. Depuis 2013, on a de plus en plus de parlementaires et de ministres qui s'intéressent au sujet et qui co-construisent les lois avec des citoyens.
Est-ce que le public, ou pour le dire autrement, le grand public est présent sur Parlement et citoyens ?
Alors oui, quand on voit, on parlait de la loi République numérique, il y a eu 20 000 contributions uniques. Donc on peut dire que c'est peu, mais on peut aussi voir que pour une première expérimentation, c'est beaucoup. Et encore une fois, ça manque encore parce que tout le monde ne connaît pas encore cette plateforme, mais effectivement, c'est très accessible pour tout le monde, donc tout le monde peut s'impliquer.
Je vous pose la question parce que Thibaut d'Hernoncourt, que l'on entendait, nous a quand même confié ce qu'il avait pensé à l'issue de la journée des geeks pour sauver la politique. Et l'on sent quand même le doute parfois poindre le bout de son nez.
C'était assez intéressant parce qu'il y a eu un rapport un peu inversé. On a eu l'occasion d'entendre pas mal d'élus nous parler ce matin de leurs attentes. Alors les attentes, ça tombe bien, parce que généralement on aime bien travailler à partir de la formulation des besoins des administrations. C'est beaucoup plus facile que nous d'arriver en disant on a une techno et il n'y a plus qu'à l'appliquer. Ça nous a permis d'entendre des choses aussi avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, parce qu'on voit qu'il y a des attentes des élus qui ne sont pas forcément en lien avec la manière dont on conçoit la perception citoyenne. Et de manière générale, c'est toujours assez intéressant d'essayer de s'ouvrir. C'est vrai que nous, on est une communauté d'acteurs engagés, on se rencontre beaucoup. Mais là, essayer de s'ouvrir à un public plus large et de voir aussi. Nous, ce qui est intéressant, c'est donc nous, on fait de la consultation citoyenne en ligne. C'est vrai, on voit tous les sondages. On va dire qu'il y en a un qui est sorti récemment. Il y a 71% des Français qui disent que participer à une consultation en ligne, c'est un bienfait pour la démocratie. Sur les meilleures consultations qu'on réalise, on est à 20 000 participants aujourd'hui. Donc, on voit bien que le décalage entre une aspiration dite des Français et la réalité effective des consultations et des chiffres et de l'audience sur nos plateformes, il y a encore un delta. Donc, c'est aussi ce qui nous amène à nous interroger. Quand on rencontre là des youtubeurs qui nous disent que ce qu'on fait c'est trop compliqué, à la fois on est d'accord sur l'idée que faire la politique en 140 signes c'est pas possible, mais en même temps ça nous interroge aussi pour nous dire vraiment comment on arrive à toucher un public sans cesse plus élargi par rapport à nos actions et pas rester des audiences trop confidentielles.
C'est vrai ça, on n'a pas tous forcément envie de participer au coup d'état citoyen. Comment on répond à ça, Romain Slitine ?
Alors on n'a effectivement pas tous envie de participer tout le temps à toutes les lois, par exemple. Il y a des choses qui peuvent nous intéresser. On peut avoir une expertise plus importante, on peut avoir une sensibilité plus importante sur tel ou tel sujet. L'idée, c'est que ça soit accessible à tous et que ça puisse se faire en totale transparence. Et c'est ça aussi la démocratie, c'est de permettre à tous de participer quand ils le souhaitent et ne pas faire des lois en vase clos. Ce que disait aussi Thibaut d'Hernoncourt, c'est finalement que ça reste encore quelque part un peu confidentiel. C'est vrai. Parce que aujourd'hui, cette émission en est un contre-exemple, mais on parle de la politique comme on en parlait il y a 50 ans. Les journalistes suivent les grandes figures politiques qui sont toujours les mêmes et qui n'ont souvent pas énormément de choses à dire. Et donc, il faut vraiment décaler et faire mieux connaître ces initiatives. C'est pour ça qu'on a écrit le coup d'État citoyen, c'est pour ça qu'on s'engage dans le collectif Démocratie ouverte et c'est pour ça qu'on essaye de populariser au maximum cette démocratie de demain.
Il y a eu du beau monde d'ailleurs dans ce forum des geeks pour sauver la politique, puisque vous avez eu la secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation, donc Axelle Lemaire, à vos côtés. Est-ce que vous avez la sensation, Elisa Lewis, que le monde politique et les institutions en France mesurent ce changement de monde dans lequel on est en train d'entrer ? Je prends l'expression de Michel Serres, Elisa Lewis.
Alors, ils le mesurent de plus en plus, mais ils ne le mesurent sans doute pas tous. Il y a vraiment différentes catégories de responsables politiques. Il y a ceux qui, pour le moment, restent relativement éloignés de ces dynamiques et qui restent drapés dans leur légitimité électorale, puisque c'est comme ça qu'on a construit la démocratie représentative. Un élu qui vient faire le plein de légitimité une fois tous les 5 ans et qui, avec sa légitimité électorale, est finalement dans une posture de quasi omniscience et omnipotence pour faire la loi et pour faire la politique publique. Et puis, il y a ceux, et ils sont quand même de plus en plus nombreux, qui se rendent bien compte qu'on ne peut plus continuer avec le logiciel du passé et qu'il faut évoluer. Alors, évidemment, il faut rester très vigilant aux effets d'annonce, aux effets marketing, au participative washing. Mais nous, on se rend bien compte au sein de Démocratie ouverte que de plus en plus de responsables politiques locaux et nationaux s'intéressent à ces questions. Et l'exemple de Parlement et citoyens est un bon exemple, puisque il y a 3 ans, c'était extrêmement difficile d'être audible auprès des responsables politiques, et la communauté des parlementaires qui s'y engagent ne cesse de grandir aujourd'hui.
Alors, vous le disiez, la France souhaite se positionner à l'avant-garde de ce gouvernement ouvert. Est-ce que ça veut dire finalement que le coup d'État citoyen est déjà récupéré par les institutions, Romain Slitin?
Notre rôle, c'est d'être vigilant et d'être exigeant, parce que tout le monde peut parler de démocratie, tout le monde peut parler de gouvernement ouvert. Il y a un élément, en tout cas, qui semble essentiel, c'est que quand on va dans cette direction, il ne faut plus faire, parce que les citoyens ne l'acceptent plus, de la démocratie participative à la papa, de manière institutionnelle, où on réunit les gens pour leur demander leur avis, et au final, on n'en tient pas compte. Ça, ce n'est plus acceptable, et ça renforce la crise démocratique. Donc nous, là, ce qu'on voit, ce qu'on propose, c'est une véritable exigence vis-à-vis des responsables politiques qui souhaitent s'engager, donc ne rien laisser passer en termes d'exigence. Et puis, l'idée, c'est de se dire, bah oui, on va vers plus de participation, plus de transparence, plus de collaboratif. Mais avant tout, c'est une question de la répartition du pouvoir. C'est-à-dire véritablement que si on demande la parole aux citoyens, si on donne la parole aux citoyens, il faut véritablement prendre en compte leurs desiderata et leurs souhaits.
Et Démocratie Ouverte compte bien prendre la parole lors de cette conférence partenariat pour le gouvernement ouvert, Romain Slitin?
Oui, on sera au centre de ce partenariat, puisqu'il y aura un stand Place to Democracy qui permettra de donner la parole à l'ensemble de ces innovateurs démocratiques et de bousculer un petit peu le sommet pour qu'il ne soit pas uniquement institutionnel.
Elisa Lewis, je rappelle que vous êtes entrepreneur. Romain Slitin, vous êtes quant à vous consultant et maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous êtes venu pour nous parler de votre excellent livre, Coup d'État citoyen, publié aux éditions La Découverte. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Je rappelle que toutes les références, tous les liens sont à retrouver sur atelier.rfi.fr. N'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux ou à nous faire part de vos coups d'État citoyens. L'Atelier des médias, une émission préparée par Manon Mella, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, à la réalisation Simon de Creuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute. We'll be right back.